Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour l'émission Culture Flip, une émission enregistrée au studio radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Nous sommes des étudiants du BUT GACO, aujourd'hui vous êtes en ma compagnie, Arthur, l'animateur, Jeannot-San.
Bonjour.
Jérémy.
Bonjour.
Julien.
Bonjour.
Les chroniqueurs, ainsi que de Safwan, le technicien. Culture Flip, c'est quoi ? Eh bien c'est un projet qui est mené par 5 étudiants dont le but est de partager des sujets sur la culture à travers cette émission radio. En effet, dans un premier temps, Jérémy vous présentera la Fête des Lumières, avant de poursuivre avec Julien, qui lui vous présentera l'art flamand. Enfin, vous en apprendrez un peu plus sur la Fête de la Bière avec Jeannot-San. Eh bien, commençons, ne perdons pas plus de temps, je délaisse la parole à Jérémy.
Eh bien en effet, je vais vous parler d'une fête suédoise, la Fête de la Lumière ou encore Sankta Lucia. Eh bien cette fête est devenue un pionnier de la culture suédoise, puisqu'elle a pour vocation de marquer le début de la période de Noël, ce qui rend cette période encore plus festive en Suède.
Mais cette fête historique, comment a-t-elle été créée ?
Eh bien, je vais expliquer tout ça lors de ma chronique, mais tout d'abord, nous pouvons facilement comprendre que c'est une fête aux origines possiblement chrétiennes, rien que par le nom. Mais du coup, une fête aux origines possiblement chrétiennes dans un pays qui pourtant était païen et vouait des cultes à leurs célèbres dieux nordiques tels que Thor ou encore Loki que nous connaissons tous, c'est assez étrange, non ? Je vous l'accorde. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre qui est Sainte Lucie, celle qui a donné donc son nom à cette fête, autrement dit Sancta Lucia. Eh bien Sainte Lucie, Lucie voulant dire lumière, est une jeune fille qui était sicilienne, ce qui n'a rien à voir avec la Suède, je vous l'accorde. Elle serait morte en martyr en 304, puisqu'elle aurait trouvé la mort suite au refus de l'amour d'un jeune homme païen, celui qui par colère lui aurait arraché les yeux et l'aurait ensuite brûlée. Elle serait ensuite apparue en Suède un soir de famine, vêtue d'une robe blanche et d'une couronne lumineuse. Sur un bateau rempli de vivres, elle serait donc venue apporter de la nourriture aux plus pauvres. Et pour les fans de mythologie nordique, il existerait aussi une origine purement liée à la mythologie, puisqu'on raconte que lors du solstice d'hiver, les Suédois effectuaient des feux de joie en l'honneur d'une déesse, la déesse Sol ou encore Suna. On raconterait qu'elle dirigerait le char du soleil. On dit que ce char s'est lancé dans une course effrénée poursuivi par un loup géant qui aurait pour un seul but dévorer le soleil et plonger le monde dans les ténèbres. J'ai tiré cette histoire du livre Leda, récit de mythologie nordique. Mais peu importe la version que nous choisissons, c'est la lumière qui est donc mise à l'honneur lors de cette fête.
Une histoire assez effrayante qui fait froid dans le dos, mais alors quand se passe cette fête ?
Eh bien cette fête se passe le 13 décembre qui est la journée la plus longue en Suède, puisqu'en effet les journées y sont terriblement longues en hiver. Il y a pour tradition d'allumer de nombreuses bougies, de nombreux cierges, puisque cela aurait pour but de chasser les ténèbres. Il y a aussi pour tradition de nommer une jeune fille Sainte Lucie, jeune fille habillée d'une robe traditionnelle blanche et d'une couronne de bougies. Les codes de l'époque voulaient qu'elle soit blonde aux origines purement scandinaves, mais fort heureusement les mentalités commencent à changer, puisque pour certains c'est devenu une fête aux codes vieillissants et passés. Ils ont donc fait le choix de modifier certaines choses, en permettant par exemple aussi à des garçons de devenir Sainte Lucie, ce qui permet donc d'instaurer une certaine forme d'égalité entre les deux genres, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, personnellement, je pense qu'il est bon d'apporter de la nouveauté, de la modernité aux traditions, puisque cela permet qu'elles puissent toujours exister tout en restant en cohérence avec les codes en constante évolution dans une société. Lors de cette fête, vous aurez aussi l'occasion de manger de la brioche au safran, brioche jaune comme la lumière du soleil, mais aussi de boire du vin chaud aux épices tout en écoutant des chants traditionnels suédois, souvent proposés par des écoles ou des chœurs. Cette fête marquant donc le début de la période de Noël crée une atmosphère réellement féerique puisqu'il y a des illuminations dans toute la ville, des marchés de Noël, tout ça dans des paysages grandioses où la neige est rarement en option.
Il est clair qu'en Suède, ils ne rigolent vraiment pas avec l'esprit de Noël, ils ne font pas les choses à moitié.
Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Les événements cette année se passent du 18 novembre au 25 décembre, puisque c'est un programme publié par le journal Pocklington Post, qui est un journal local. Vous pouvez peut-être vous y rendre l'année prochaine, puisqu'à mon avis, pour cette année, c'est trop tard, mais pourquoi pas pour de futures vacances, puisque le dépaysement, il est garanti. Faute de pouvoir se déplacer, nous pouvons aussi parfois retrouver des événements liés à cette fête en France. Puisqu'en effet, souvent sont organisés des événements par des communautés originaires de là-bas, par des villes accueillant des maisons de la Suède, ou encore auparavant par l'église suédoise de Paris, qui malheureusement actuellement risque d'être mise en vente. J'ai personnellement beaucoup aimé réaliser des recherches sur cette fête et cette culture, qui à mon sens n'est pas si étrangère à la nôtre finalement.
Je pense que cette histoire nous a tous donné très envie de partir en Suède. Heureusement, Jérémy nous a partagé quelques plans pour s'y joindre et j'espère bien qu'on s'y retrouvera tous malgré les conditions sanitaires. Sinon, vous, Jeannot-San, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, j'ai d'abord trouvé que la chronique de Jérémy était très intéressante et que cette fête est plutôt sympathique, une bonne ambiance. Je me dis pourquoi pas y aller l'année prochaine.
Quoi qu'il en soit, il est sûr que cette histoire restera marquée dans nos esprits. Passons maintenant à la chronique de Julien sur l'art flamand, un sujet simple mais à la fois très complexe.
L'art flamand, comme son nom l'indique, vient de la région flamande, que ce soit de la Flandre française ou belge. La Flandre dans son ensemble est une culture riche, que ce soit dans la peinture, en passant par l'architecture ou encore le cinéma. J'ai choisi de faire découvrir cette culture car elle est assez méconnue dans le monde.
En effet, hein, comme nous le dit Julien, c'est une culture très méconnue, on n'en entend pas parler, même si on est constamment face à l'art flamand, que ce soit sous la forme d'architecture ou de peinture, mais j'imagine que Julien va nous en parler très bientôt.
J'ai aussi choisi l'art flamand, car étant d'origine flamande, cela me tient particulièrement à cœur de faire découvrir cet aspect de ma région, et de lever certains clichés qui pèsent encore de nos jours sur cette belle et magnifique région, et qui nous offre de nombreuses œuvres que l'on peut découvrir dès à présent. J'ai décidé de vous faire découvrir le cinéma, dans un premier temps en parlant du cinéma flamand avec le film Loft, qui est le film ayant fait le plus grand nombre d'entrées dans l'histoire du cinéma flamand. C'est un film d'Eric Van Looy, qui est un film de style dramatique policier. Ce film raconte l'histoire de 5 hommes mariés qui achètent un loft, mais pourquoi faire? Telle est la question. Je ne vous en dirai pas plus, à vous d'aller la découvrir à la suite. Et il faut aussi savoir que le succès de ce film a incité le cinéma américain à en faire un remake pour les États-Unis qui s'appelle tout simplement The Loft. Mais aussi l'Inde, comme nous l'apprend Gazette Van Het Verpen dans ses articles de 2014 et 2020. Pour la partie francophone de la région, il n'y a pas vraiment de film, à part peut-être le film Flan, qui est un film de guerre parlant de soldats flamands partis en Afghanistan. C'est un film réalisé par Bruno Dumont qui a été primé au Festival du cinéma à Cannes en 1999, en recevant le Grand Prix du jury. Il y a aussi de nombreux films francophones tournés en région flamande, comme l'école du Cible d'Iconic, tournée à Bruxelles ou dans les communes aux alentours. Ou encore Bienvenue chez les Ch'tis, tournée à Vergne, pour la plupart du film, qui est un village situé près de Cassel, qui d'ailleurs m'amène à changer de sujet et à parler peinture.
Cassel a un village très intéressant, mais alors pourquoi avoir choisi ce village en particulier? Qu'a-t-il?
Pourquoi Cassel m'appelle à parler peinture? Cela m'amène à ce thème, car il y a un musée qui s'appelle le Musée de Flandre, où d'ailleurs, en ce moment, comme nous l'indique le site internet du musée avec l'article « La dynastie Franken » de 2021, il y a depuis le 4 septembre jusqu'au début janvier une exposition sur cette dynastie.
Une dynastie, vous dites, mais intéressant, mais qu'est-ce que ça peut bien être une dynastie?
Cette dynastie concerne la famille Franken, comme son nom l'indique. Elle s'est située dans la province d'Antwerpen. C'est une dynastie de peintres qui a commencé par Frans Ier, qui était un peintre d'église, mais c'est surtout le nom de Frans II, son fils, lui aussi peintre, que l'on va retenir. Et il faut savoir que Frans II a affirmé son propre style en multipliant les références à l'histoire ou à la littérature. Il a œuvré dans le XVIIe siècle. Il faut savoir qu'il a été formé par son père, mais que c'est aussi un contemporain de Rubens, un peintre extrêmement connu, qui est de la même époque et qui lui aussi a vécu à Antwerpen. Il a collaboré aussi avec des peintres comme Jan Brueghel, mais aussi et surtout les membres de sa famille, afin de répondre aux besoins des bourgeois de tous horizons, qui voulaient montrer leur puissance et leur connaissance. Je vais maintenant vous parler de l'architecture, car l'architecture occupe une place importante dans l'art flamand. L'architecture flamande se distingue de certaines autres architectures, car elle est inspirée de plusieurs courants, qu'ils soient de la Renaissance italienne, en passant par la pyramide romane ou encore le style gothique. Cette architecture a laissé de nombreux monuments, comme la cathédrale de Meyrelen, qui me fait faire un clin d'œil à ma ville d'origine, ça me fait plaisir. Elle est du style roman, la cathédrale de Tournai, qui a été construite vers 1242, elle est du style gothique. Et il y a aussi, comme monument extrêmement connu, l'hôtel de ville d'Antwerpen, qui a été construit dans les années 1560. Mais cette architecture ne s'applique pas uniquement aux monuments importants, il s'est aussi appliqué aux maisons, avec la particularité des pignons notamment. On distingue plusieurs types de pignons, mais on va surtout retenir celui à gradin qui est le plus répandu. Pour vous représenter cela vulgairement, le toit est construit, sous forme d'escalier, donnant donc l'effet de gradin au toit. Nous arrivons à la fin de cette chronique. Je tiens à vous faire partager que j'ai pris énormément de plaisir à la faire, car cela m'a permis de lever certains clichés levant encore sur notre région. Nous avons donc vu que cette culture est riche, proposant ainsi divers thèmes en passant des films policiers comme Loft, ou encore en survolant la dynastie Franken et son histoire, ou encore des films comme Déconner qui est bienvenu chez les Ch'tis, et en finissant bien évidemment par les magnifiques monuments s'inspirant de l'architecture made in Flandern. Et encore, on n'a vu qu'une toute petite partie de cette culture. C'est pour cela que je vous invite à revenir nous écouter très bientôt, ou si vous êtes pressé, regardez la chaîne YouTube Flandre TV.
Donc un art qui se présente sous différentes formes, comme nous avons pu le voir, par la peinture ou encore l'architecture, et encore ce n'est qu'une minime partie. C'est très enrichissant pour les Flamands, et j'imagine que c'est une fierté pour vous, Julien, qui êtes de la région.
C'est une énorme fierté, bien évidemment, pour cette région très souvent décriée, peut-être à juste titre. Mais si j'ai pu contribuer à donner une meilleure image de ma région, j'en suis extrêmement heureux. Et vous, qu'en pensez-vous, Jérémy ?
Eh bien, je pense que c'est intéressant que vous ayez abordé le point de vue de l'architecture, puisque j'habite en Flandre depuis un certain temps et je ne m'étais jamais intéressé à cet aspect. Et donc, je vais pouvoir apporter un œil nouveau, si je peux appeler cela comme ça, au paysage que je vois au quotidien. Et vous, Janossa, je me permets de demander votre avis.
Eh bien, je trouve très intéressant la chronique de Julien qui a permis de nous faire découvrir la Flandre en quelque sorte à travers l'aspect artistique, les peintures, les films, l'architecture, etc. Et c'était très intéressant vu qu'il nous a donné son point de vue, son avis, vu qu'il y vit depuis longtemps. Et je trouvais ça très intéressant et très enrichissant.
Donc apparemment, on a tous un avis qui est plus ou moins proche sur la question. C'est pourquoi je vous propose de passer directement à la chronique de Janossen sur la fête de la bière.
Eh bien, moi, je vais vous parler d'Oktoberfest, autrement dit la fête d'octobre, un événement festif qui se déroule en Allemagne, plus précisément à Munich, durant le mois de septembre-octobre. Cette fête internationale allemande, communément appelée fête de la bière, est un événement qui regroupe près de 6 millions de visiteurs chaque année.
Vous avez bien dit 6 millions, mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour réunir autant de visiteurs en un même lieu ?
Eh bien, je vous dirais la bière. En effet, j'ai bien l'impression que les Allemands aiment un peu trop la bière pour en faire... un festival qu'autour de ça.
Mais alors, d'où vient cette tradition ? Comment a-t-elle été créée ?
Au départ, cette tradition a été mise en place à l'occasion du mariage du prince de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen en 1810. Cette fête en l'honneur des mariés s'est déroulée sur 5 jours dans lesquels il était possible d'assister à des courses de chevaux. Puis les années suivantes, cet événement a été remis en place avec d'autres activités en plus, telles que des stands proposant de la nourriture ou bien même des boissons. Au fil du temps, cet événement prit une énorme ampleur, on pouvait donc y trouver des manèges, des danses, des fanfares, etc. Et à partir de 1986, on pouvait même y trouver les fameuses halles à bière, mises en place par les grandes brasseries de Munich.
On peut dire que eux non plus ne font pas les choses qu'à moitié, de multiples divertissements y sont proposés, des manèges, fanfares. Mais alors on en vient à se demander quand se déroule cette fête.
Eh bien, la fête de la bière commence généralement le premier samedi suivant le 15 septembre et se termine le premier dimanche d'octobre. Certains se demanderont peut-être s'ils peuvent y venir avec leurs petits frères ou petites sœurs. Eh bien, évidemment, depuis 2010, vous pouvez retrouver différentes manières de vous occuper, que vous soyez enfant ou adulte, tels que des manèges et attractions sur le site du festival et dans les tentes. En effet, chaque année, les 6 millions de visiteurs se réunissent sous des dizaines de tentes, donc si vous êtes agoraphobe, je vous déconseille d'y aller. Et je vous conseillerais aussi, si vous avez envie d'y aller, de réserver une table à l'avance, car il sera pratiquement impossible d'en avoir une sur place.
Eh bien, j'imagine que les auditeurs doivent se demander comment se déroule cet événement. Dites-nous en plus, Janossen.
Eh bien, cette cérémonie se débute par la mise en bouteille de la bière ou par un défilé traditionnel de costumes. Ne soyez donc pas étonnés de voir d'énormes chars en plein milieu de Munich. Ils sont là pour vous transporter de grandes barriques et tonneaux de bière. Et on note ainsi que plus de 65 000 hectolitres de bière sont consommés durant ces 2 semaines. Et à titre personnel, je trouve que cette fête est un peu dans l'excès pour en faire une fête qu'autour de la bière. Et c'est en effet le moment idéal pour les brasseries pour faire leurs chiffres. On note ainsi que cet événement attire beaucoup de touristes. Donc c'est un moment important non seulement pour les brasseries, mais aussi pour les hôtels qui en profitent pour augmenter leurs prix. Par ailleurs, on peut noter que cette tradition est même tenue en dehors de l'Allemagne. On peut donc y assister aux États-Unis ou bien même dans d'autres pays d'Amérique où vit une grande communauté d'Allemands. Cependant, le festival n'aura pas la même ampleur qu'à Munich, bien évidemment. En effet, c'est le cas également d'autres fêtes telles que la fête de la lumière que vous a présenté Jérémy, qui est également organisée dans d'autres pays comme en France.
Mais si quelque chose m'a interpellé, c'est le fait de réunir autant de personnes en un même lieu. Est-ce que ce n'est pas trop difficile avec les conditions sanitaires actuelles ? J'imagine que beaucoup de chroniqueurs aimeraient y participer, mais cela doit être difficile pour eux.
Bah justement, ça fait 2 ans que cette fête a été annulée dû à la situation sanitaire. On a déjà les prochaines dates d'après le site Munich. On a déjà les prochaines dates d'après le site internet München.de. Donc l'événement se déroulerait entre le 22 septembre et le 3 octobre 2022. Donc si vous êtes un amateur de bière ou simplement appréciez les événements ou vous amusez, vous pouvez donc prévoir d'y aller un week-end entre ces dates-là.
Je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé ces sujets très intéressants et plus ou moins diversifiés. On ne manque pas d'en apprendre. Si une chose est sûre, c'est que nos auditeurs n'auront pas hésité quant à la destination de leurs prochaines vacances. Hein. Qu'en pensez-vous, Jérémy ?
Eh bien, je pense que pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas entre chroniqueurs, se rendre à la fête de la bière, puis à la fête des lumières, puisque je pense que du coup, le dépaysement il sera garanti.
Je suis plutôt intéressé par votre plan de vacances, on va dire.
Et moi de même, étant flamand, et une région reconnue pour sa bière, si je peux la découvrir une autre culture, cela m'intéresse bien évidemment.
Bon bah je n'ai plus qu'à vous suivre. Merci à Jeannot-San, Jérémy et Julien pour leur chronique, ainsi qu'à Safwan pour le côté technique. Je remercie également tous les auditeurs de nous avoir écoutés. On rappelle que Culture Flip, c'est avant tout s'enrichir sur les sujets d'actualité et en apprendre un peu plus chaque jour. C'est pourquoi on se retrouve très bientôt sur Radio Gakko. Passez une bonne journée.